La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le chant lexical de la nuit, de l'ombre ou du noir imprègne les paroles des chansons de Barbara. Prenons seulement les titres, il y a L'Aigle Noir bien entendu, mais aussi Au cœur de la nuit, Clair de nuit, Les Insomnies, Gueule de nuit, Le piano noir, Le soleil noir ou encore Vol de nuit. Car la longue dame brune, comme on l'appelait également, évoluait dans cet univers qui fuit la lumière trop crue, ce qui ne lui a pas empêché d'être gaie, loin de là, comme nous allons le voir au cours de cette série en 4 épisodes. Après la vie de Barbara, à laquelle nous nous intéresserons dans cette première émission, nous nous arrêterons dans la seconde sur l'étude de ses paroles en compagnie de Joël Julie de l'Université d'Aix-Marseille. Et puis dans le troisième épisode, nous parlerons de Barbara à la scène avec Valérie Lehoux qui lui a consacré une biographie dans laquelle elle revient notamment sur le rapport au corps de Barbara à la ville comme sur les planches. Et puis nous terminons enfin par deux rapports plus personnels à Barbara. Bruno Blankmann d'abord, qui nous parlera notamment du mythique concert à Pantin auquel il a assisté. Et puis Pierre Note ensuite, auteur de « J'ai tué Barbara » aux éditions Philippe Ray, un livre dans lequel il raconte comment la chanteuse lui a littéralement sauvé la vie. Bienvenue à tous dans la Compagnie des œuvres.
Je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune et je t'entends. Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi. Ta guitare de fortune guide mes pas.
La biographie, donc, pour commencer avec vous, Jean-François Kervéhan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes romancier, vous avez publié de nombreux livres depuis votre premier roman, La folie du moment, qui traitait de l'univers carcéral et que vous aviez publié chez Calman Levy, c'était en 1994. On vous doit également La naissance du sentiment chez Robert Laffont en 2017, année où vous aviez aussi publié Barbara, la vraie vie, toujours aux éditions Robert Laffont. Alors vous dites que vous avez adoré écrire ce livre sur cette femme tellement hors norme et qui était pour vous extrêmement enthousiasmante. Qu'est-ce qui vous a plu dans votre manière de plonger, de vous approcher de Barbara?
C'était comme c'était quelqu'un que j'aimais, même si je l'avais jamais approché. C'était une compagnie de plaisir. Je ne sais pas si le plaisir est une motivation suffisante pour faire un livre, mais c'était un engagement. Mon éditrice était folle de Barbara aussi, et on s'était mis d'accord très vite, Françoise Delivet chez Robert Laffont. C'était retrouver quelqu'un à travers le temps pour revivre les émotions et le bonheur qu'elle m'avait donné plus jeune. Et je pense que je l'ai vécu. J'ai entrepris ce livre comme un très grand plaisir, et il a été un très grand plaisir. Et vous avez raison, à travers tout le vocable que vous avez employé, la référence de Barbara, c'est quand même une joie. Alors c'est une joie qui est teintée d'émotion. C'est pas une joie, on sait pas, saute en l'air toujours, même si elle était très gaie et même parfois loufoque. Mais c'est quand même une joie teintée d'émotion, c'est-à-dire d'une forme d'intégrité, de vérité. Et à ce titre-là, fouiller sa vie n'a rien démenti de cela.
Alors vous avez fouillé sa vie, vous avez lu aussi l'autobiographie qu'elle nous a laissée. Alors c'est une autobiographie interrompue, Il était un piano noir, Mémoires interrompues, publiées aux éditions Fayard et ensuite au livre de poche. On est forcément influencé du coup quand le personnage sur lequel on écrit, la personne sur laquelle on écrit a elle-même raconté un petit peu sa vie.
Oui, alors elle l'a fait succinctement, parce qu'en plus, moi, j'ai vu ce livre arriver par fax chez Claude Durand. C'était mon éditeur à l'époque, et quand il m'a dit, heureux, à la fois en tant qu'homme et en tant qu'éditeur, il dit, je fais la biographie de Barbara. Et elle envoyait des fax qui crépitaient près de la fenêtre, avec des dessins, des marguerites, des bateaux. Et j'étais un admirateur de Barbara. Donc j'étais devant Claude Durand, je voulais qu'il m'emmène après ici, il m'a jamais emmené, bien sûr.
Et vous auriez pu aller vous-même, ça n'est pas très loin.
Alors j'ai été me promener, mais j'ai pas tapé au volet. Je me suis arrêté, moi, dans le comportement fan, je me suis arrêté là où vraiment je me disais, mais non, quoi, quand même. On va pas emmerder quelqu'un qui décide d'être à l'intérieur. Mais j'ai été faire un tour après ici, j'ai vu les forêts où elle promenait ses chiens, mais j'ai pas tapé au carreau. Et Claude Durand a interrompu par sa mort. C'est-à-dire le texte est post-mortem. Il est rapide, hein, je crois qu'il y a 200 pages de publié. Elle évoque pour la première fois l'inceste, sans le nommer. Mm-hmm. Pour le reste, c'est pas une femme de cachotterie, de mensonge, Barbara. Il y a pas grand-chose, il y a pas... La vie est tellement fournie qu'elle est comme un mystère, mais c'est pas une femme de mystère du tout.
Vous avez intitulé votre biographie Barbara, la vraie vie. Pourquoi la vraie vie ?
La vraie vie, c'est que la particularité de l'émotion, c'est à la fois une joie et un chagrin mêlés. Et ça rejoint un peu votre intitulé, parce que quand j'ai vu arriver votre mail et que vous avez intitulé l'émission, je crois, « Un sacré goût de vivre », j'ai pensé immédiatement que ça aurait pu être aussi un sacré goût de mourir. Mais la particularité de Barbara, c'est que c'est la même chose. Et je pense que c'est ce qui fait sa singularité et la cohérence de l'œuvre. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre cette déchirure entre la pulsion de vie ou la pulsion de mort, elle en a fait une seule chose, un seul monde et une œuvre. On peut s'en sortir créativement. C'est vraiment la création qui était la réponse à cette tension. Elle vivait les deux. Mais la pulsion de vie est équivalent chez elle à la pulsion de mort. Et c'est ce qui rend l'œuvre finalement paisible, je trouve.
Est-ce que la vraie vie de Barbara, c'est pas justement dans sa tête que ça se passait? Est-ce qu'on peut vraiment connaître la vraie vie de Barbara à partir du moment où c'est vraiment une vie psychique très très riche? En tout cas, on l'imagine comme ça.
Mais oui, mais sa discrétion, ou même parfois son ermitage, n'empêchait pas chez elle une propension à l'expression totale, et musicale et textuelle. Vous entrez avec Barbara, et même dans le psychisme de Barbara, ne serait-ce que les chansons sur l'inceste, par exemple, pour revenir sur cette question, à chaque fois que vous écoutez sa chanson. Le rapport au temps, le rapport à la jeunesse, le rapport à l'amour, sont déjà décryptés une première fois dans ses textes, et de façon assez fidèle par rapport à la vérité.
Alors, on n'a pas encore dit que c'était une femme qui avait d'abord touché le fond. C'est comme ça que commence la vie de Barbara. Mais qu'elle n'a jamais cédé sur son désir, et son désir presque finalement unique, en tout cas le plus grand, c'était de chanter.
Oui.
Jean-François Kervéan.
Oui, de s'exprimer, mais je pense qu'elle y était vouée. Et là où moi je me suis lancé par surprise, et je me suis dit, bon, alors si on fait une biographie d'une chanteuse, ça va être un peu l'alcôve, la chambre. Comment? Moi j'avais l'habitude, j'ai plutôt une formation d'historien, j'avais peur de me retrouver étriqué. Mais précisément, son drame en tant que femme et sa chance en tant qu'artiste, c'est que pratiquement tous les événements de sa vie se superposent à un gouffre, mais quasi romanesque, hein, tellement il est dantesque, c'est hallucinant. Hein. Elle est traquée petite juive pendant la guerre, ils ne l'ont pas rattrapée, ni elle ni sa famille. Elle subit un inceste et une liaison avec son père entre 10 et 15 ans. La libération éclate, elle se sauve. Elle est encore mineure, qu'elle cavale en Belgique. En Belgique, c'est tout juste si elle ne se retrouve pas sur le trottoir.
Alors là, vous nous faites un peu la bande-annonce de l'émission à venir.
C'est-à-dire ?
On va détailler un petit peu la biographie, justement, de Barbara, en commençant par son enfance.
J'ai pas de souvenirs d'enfance. Des odeurs. Des villes. Des paysages. Des départs précipités. J'ai pas de passé. Je n'ai pas d'avenir. J'ai l'instant présent. Très fort. Violemment. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est très important. Il faut savoir aussi refaire l'amour à chaque matin, je veux dire par là que se reconquérir.
Je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai tort, j'ai voulu revoir le coteau glissé le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau là-haut se dressant comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas. Les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon donut à l'école.
Je n'ai pas de souvenirs d'enfance, dit Barbara. Ça n'est évidemment pas totalement vrai. Elle a des souvenirs d'enfance, mais elle veut peut-être en oublier un certain nombre. Alors, on va détailler un petit peu tout ça avec vous, Jean-François Carvéan. Il faut commencer par dire que Barbara, c'est évidemment un surnom.
Oui, elle s'appelait Monique.
Monique comment ?
Cerf. Ouais.
Elle est née le 9 juin 1930, dans le quartier des Batignolles. Mmh. Et vous insistez sur le fait qu'elle est Gémeaux. Pourquoi ?
Oui, parce que moi aussi, mais voilà. Non, mais Gémeaux aussi, parce que signe d'air et de feu, la dualité. Et puis j'ajoute une définition, je ne me souviens pas par cœur de ce livre. Il y a un côté toujours un peu... Il joue son jeu à qui tout double, le Gémeaux. C'est un peu sa définition dans l'horoscope. Et ça lui convenait assez bien.
Alors elle naît quelques mois après le crash boursier.
Oui, elle est entre le crash boursier et la montée du fascisme, ce qui est déjà pas un moment très rigolo. Et mais surtout, en dehors, toujours l'intimité, elle est aussi en crise avec sa famille et on ne sait pas pourquoi. Avant même les déchirures, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. On ne sait pas pourquoi, ça c'est mystérieux. Ça c'est une chose sur laquelle le biographe bute. Le père se comporte encore bien, il n'y a pas les...
Ce qui va arriver après.
Non, c'est même un... Alors c'est un joueur professionnel, il y a les semaines avec et les semaines sans, mais les
c'est-à-dire
semaines avec, il ramène des cadeaux
merveilleux. L'argent de la famille ?
Pardon ?
Il perd au jeu l'argent
oui,
de la famille.
Oui, largement, l'argent du ménage. C'est effrayant d'avoir un père joueur, mais c'est fascinant, parce qu'il y a des soirs où c'est le Père Noël. Et puis il y a l'Ukraine, c'est-à-dire il y a l'origine ukrainienne, juif russe qui sonne encore chez la grand-mère. Là, une grand-mère qui les emmène au concert orthodoxe de la rue d'Aru. Il y a un univers de cirque, de musique qui a fait rêver gosse. Et très vite, elle va pianoter la table comme si c'était un piano. Elle est partie. Elle a rompu avec la famille.
Donc elle est juive, vous dites. La famille d'ailleurs, Cerf, est juive comme Max Jacob.
Absolument.
Et près de 300 000 Français le sont, c'est-à-dire au fond parfaitement intégrés.
Oui, Max Jacob, qui habitait la même rue qu'elle, n'est pas parti en pensant que sa légion d'honneur le protégerait de porter l'étoile jaune. Non seulement il l'a portée, mais il en est mort. Et le père...
Elle, il n'a jamais porté l'étoile jaune.
Non. Le père a eu un instant formidable, c'est que dans le courant des années 30, à la fois chassé par l'avantage des escrocs, c'est qu'ils sont obligés de se sauver toujours, et lui, il a compris que ça allait mal tourner, il a emmené tout le monde en province. Et le père a quand même une conduite héroïque, c'est que ils ont été dénoncés plusieurs fois, en Charente, partout, ils ont fini sur le plateau du Vercors, assez tranquille, cette famille... Mais le père a toujours tellement senti le vent, à Tarbes, partout ils ont déménagé, ils n'ont jamais été rattrapés.
À Marseille ?
Marseille, absolument, vous avez raison.
À Roanne ?
Roanne. Alors, c'est drôle parce que dans ses mémoires, elle l'évoque assez longuement, et ça c'est des choses qu'elle n'avait pas évoquées dans sa biographie, parce qu'elle fermait le placard de la famille, on sait pourquoi. Le père partait souvent parce que le boucher n'était pas payé, et ils envoyaient les gosses le faire patienter. Mais il partait aussi parce qu'il savait que bouger, ça permettrait de survivre.
Alors il y a un frère aussi et une sœur dans cette famille. Est-ce qu'ils sont proches ?
Oui, je crois. C'est pas des. Oui, ils sont proches. Oui. La famille est soudée derrière avec Barbara. Oui.
Et il y a la grand-mère.
Ah bah elle, c'est quasiment comme la fée dans Cendrillon, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'elle en parle et c'est le souvenir qu'elle en a.
Évidemment, donc c'est une famille très très pauvre. Quand arrive la guerre.
Pas très très, hein.
Non.
Non. La mère a un petit métier à la préfecture. Le père était représentant en fourrure, en plus de sa passion du jeu. Et il y avait une tante qui était une ancienne mannequin d'un grand couturier qui avait de l'argent, qui était veuve d'un colonel, je crois. Et donc, c'est pas très, très pauvre. C'est modeste.
Oui. Le père, cela dit, est mobilisé.
Mmh.
Donc là, j'imagine que ça pose encore de nouvelles difficultés à cette famille qui doit se séparer. Les enfants...
Ouais, la grand-mère reste, elle est épuisée, elle va rester à Paris. Et puis, ils vivent l'exode, comme tous les Français.
Ouais. Alors la tante Jeanne qui conduit Barbara et sa sœur, c'est ça,
ou oui,
son
oui,
frère
la
à Poitiers.
Oui, exactement.
Et ensuite à Blois. Alors là, ils entendent dire que le pont va sauter.
Ouais, ils ont pris le dernier train avant que le pont saute.
Ouais. Et puis il y a l'épisode du train aussi que vous racontez très bien.
Parce qu'elle l'a raconté elle-même au détour d'un documentaire. Et on est tous les gens qui sont amateurs de Barbara tombent sur ce documentaire, un documentaire de Vergès qui doit dater de 71, où tout à coup elle est en train d'accorder un piano à Châteauroux avec un berrichon. Elle est dans ce coin où ça s'est produit dans son enfance, dans la plaine de Châtillon. Et elle raconte que ce fameux dernier train qu'ils ont pris est tombé en rase campagne. L'armée a réquisitionné la locomotive. C'était la plaine des Bacles. Et le train est resté 15 jours.
Donc ils ont décroché.
Ils ont décroché la locomotive en disant on va vous en ramener une.
Comme ça, au milieu des champs.
Au milieu des champs. Il y a eu une batterie anti-aérienne qui a été installée. quelques soldats qui sont venus garder le convoi, mais il n'y avait rien. Donc là, pareil, dans l'adversité, vous savez, toujours ce côté rien devant, rien derrière, c'est parce que ça, elle a multiplié les expériences de ce dénouement, où finalement, on survit. Il y a quand même toujours un pissenlit, un rayon de soleil, un insecte, un gâteau à bouffer.
Les enfants jouent dans le train?
Mais les enfants adorent ça, c'est une colonie de vacances. Sauf que ça a été attaqué par les Stuka, c'était les avions allemands qui ont mitraillé. Il y a eu des morts et des blessés qui sont restés sur le carreau. Et en même temps qu'elle a vu, c'est toujours ça, Barbara, toujours cette cohérence, en même temps qu'elle a vu la féerie de la prairie et de la liberté en tant que gosse, il y a aussi eu des cadavres ensanglantés au bord du train.
J'ai lu votre CV. Et puis donc, il y a une date de naissance. Et puis, 10 ans après, il y a 1940... D'hôtel en hôtel, de rue en rue, de ville en ville. Je me souviens plus.
Une chanson que vous me faites là. D'hôtel en hôtel et de ville en ville.
Comptez pas sur moi pour vous faire une chanson, mais.
Pourquoi pas? Tout le monde peut faire une chanson dans sa vie.
Je vais essayer. Mais je me suis dit, tiens, c'est une façon tellement précise.
Parce que j'étais une petite fille. J'étais une petite fille qui voyageait. Et du fait qu'on fuyait, qu'on se cachait. Mais moi, à cette époque-là, à la limite, ça m'amusait. D'être une enfant de la guerre à partir du moment où j'ai été épargnée, alors que beaucoup ne l'ont pas été. Fuir d'hôtel en hôtel, c'est quand même une aventure, même avec la peur. Se cacher, quelque part, ça a été, pas tous les jours, mais quelque part, ça a été aussi très excitant dans la tête d'un enfant qui voit pas forcément le danger, qui comprend, mais qui, bon, beaucoup d'autres n'ont pas eu ce privilège-là de fuir ils ont même pas eu le temps de fuir.
Il y a un arbre, je m'y colle dans la petite voie de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans la petite voie de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole.
Entretien avec Jean-Luc Hesse dans son émission Synergie sur France Inter en 1996. Alors dans le film que vous évoquiez, le documentaire de Claude Vergès, Jean-François Carvéan, elle dit devant la caméra, la petite fille qui n'a pas été tuée dans ce train, c'était moi.
Oui, c'est ça. Bah, elle aurait dû... vous savez, quand un sacré goût de vivre, un sacré goût de mourir, quand je dis que c'est constamment lié, bah, ça en est encore une illustration. Elle aurait très bien pu mourir, en effet. Comme elle aurait très bien pu mourir de faim, pratiquement en Belgique. Comme elle aurait très bien pu faire une très mauvaise rencontre quand elle était, comme vous le disiez, tout au fond. Eh ben non, il y a toujours eu un rebond.
Il y a toujours un rebond et puis il y a toujours une double face aux choses parce que cet endroit où elle a failli mourir, c'est près du petit bois de Saint-Amand qu'on l'entend chanter ici.
Alors c'est pas, je crois que le petit bois de Saint-Amand, c'est plus tard dans sa biographie.
Oui, c'est plus tard dans sa biographie.
Mais c'est la même région, vous avez raison. La même. D'ailleurs, son amant de l'époque, qui était un jeune homme, l'a emmené se mettre au vert parce qu'elle était affamée. Enfin, c'était la vie à Paris au moment où elle débute. Il bouffait pas tous les jours et il l'a emmené en effet sur une propriété dans la même région. Vous avez raison. D'ailleurs, elle a eu en arrivant, elle était catastrophée parce que il le savait pas lui, mais elle revenait sur un traumatisme. Finalement, elle a mangé des tartes aux fraises et du gigot. Elle s'est requinquée et en partant, elle a écrit le petit bois de Saint-Amand.
Ouais. Et puis le Berry, c'est aussi un autre personnage originaire de Châteauroux. C'est Depardieu.
Ah oui, très bien, je me demandais où vous alliez m'emmener, mais ça va. Et oui, Châteauroux. Oui, Depardieu. Alors vous savez quoi? C'est personnel, c'est que vous allez inviter quelqu'un qui dit que le concert mythique auquel il était, c'était le concert de Pantin. Mm-hmm. Et moi j'y étais, et 5 rangs devant moi, il y avait un type en blouson qui fixait Barbara, mais qui la dévorait des yeux. Il était complètement fasciné par ce qui se passait sur scène et en même temps ce qui se passait dans la salle. Parce que la salle, c'était 3000 personnes. Moi, j'ai jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. J'avais 19 ans. Jamais revu ça de ma vie. Et cet homme, c'était Depardieu. Et je le regardais. Il était très connu, lui aussi. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il va se passer quelque chose entre eux tellement l'intensité de ce regard. Ils se sont retrouvés dans la loge après. Et ils sont partis ensemble pour une aventure qui a duré 5 ans et qui a abouti à Lily Passion sur scène. Et aujourd'hui, qui ressuscite le mieux Barbara? C'est lui, par ses tours de chant.
Qui est une vraie aventure, parce que Depardieu a accédé finalement à tous les désirs de Barbara. Il était totalement disponible pour elle.
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Non, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a plutôt accédé à tous les désirs de Depardieu. Il n'était pas si disponible que ça, mais elle l'a attendu.
Je croyais que sur les tournages, il relisait du coup le texte de Lily Passion qu'elle écrivait et qu'il prenait beaucoup de temps pour ça.
Et pour aller il a été disponible pour elle, mais il avait un agenda de plus grands acteurs célèbres du monde. Sur le tournage de Force Hagan, par exemple, elle attendait qu'il revienne, elle lui envoyait des bruits d'eau de pluie apprécis, parce que dans le désert, il devait vraiment se dessécher. Elle l'a beaucoup attendu, il a touché à tout. Il s'est fâché avec Roland Romanelli. Roland Romanelli, qui était son compagnon et son musicien, l'a quitté parce que Depardieu s'occupait de tout.
Alors revenons un petit peu quand même au moment de l'enfance de Barbara. Dire un mot de son parcours scolaire qui, en fait, ne compte pas vraiment pour elle. Il y avait son frère qui était toujours premier de la classe.
Et puis, ah oui, c'est vrai, c'était le héros et l'héritier de la famille. Ouais. La méchante, la Cruella, parce que c'est des personnages très archétypés. Il y avait la tante, hein, bourgeoise et riche, qui voulait sauver cette famille de l'ornière. Elle ne jurait que par le garçon qui s'appelait Jean. Et Barbara, c'était franchement, elle a eu franchement l'enfance d'un vilain petit canard.
Nous fréquentons une école où j'ai un jour la surprise de voir à la sortie mon père qui m'attend. Il est en militaire. Il n'est là que pour 2 heures qu'il va passer avec mon frère et moi. Puis il me raccompagne, sanglotante. Je le supplie de rester. En vain. Je le vois encore s'éloigner, se retourner, revenir me prendre dans ses bras. Pour me calmer, il sort alors de sa poche 14 sous, avec lesquels, le cœur lourd, j'achèterai du zan. Le zan, sous toutes ses formes, ne me quittera plus. Bâton de réglisse, ruban, rouleau, petit grain, réglisse à la violette, j'en aurai partout et toujours sur moi. Plus tard, sans en connaître l'effet nocif sur la tension artérielle, j'en distribuerai à tous mes amis. Sans en avoir conscience, je rechercherai toujours cet instant heureux, mais cette relation de père à enfant, je ne la connaîtrai jamais plus.
Lecture par Sarah Chomet d'un extrait d'Il était un piano noir. Est-ce que Jean-François Kervéhan, sa vie a été brisée, selon vous, par ce rapport terrible avec son père et ce qu'il lui a fait?
Je pense qu'on ne peut pas ne pas être brisé par une aventure pareille, parce que c'est non seulement un viol et un inceste, mais c'est même une liaison qui aurait duré de 11 à 15 ans. Mmh. Et à 15 ans, elle l'a dénoncé. Elle est allée à la gendarmerie. Et comme à l'époque, ce genre de choses était un linge sale qu'on avait en famille, la gendarmerie l'a ramené chez son père.
Mais il a quand même eu peur.
Et il s'est autodétruit à partir de là. À partir de la dénonciation de sa fille, il a fini par quitter la maison et il s'est autodétruit. Et au bout, on a Nantes et cette première chanson qui va la rendre célèbre.
Donc elle était vraiment la proie du père?
Elle en parle d'une manière assez allusive. Elle avait fait des métaphores. Hein. C'est une page de Barbara qui est très connue. Dans L'Aigle Noir, il est clair que Depardieu a mis les pieds dans le plat, lui, en disant que c'était évident que le cou de cet aigle est la bite d'un homme. C'est comme ça que parle de Depardieu. Il se trouvait que c'était celle de son père. C'est très délicat parce que, je vous dis, ce qui m'a beaucoup troublé, moi, c'est que c'est pas l'affaire d'une nuit. C'est l'affaire de plusieurs années.
Et ça commence alors qu'elle a 11 ans.
Et ça commence alors qu'elle a 10-11 ans. Et que quand vous écoutez ses chansons et son monde, ce qui s'est passé, c'est que cette déchirure est aussi devenue une habitude. Une habitude sans doute, évidemment, horrifique. Mais dans l'œuvre de Barbara, ça explique aussi que le monde d'avant s'est bouclé. Et quand on entend le petit bois de Saint-Amand ou toutes ces évocations d'enfance, il n'y a pas seulement la brisure du symptôme, il y a le fait que ça fait frontière avec le monde d'avant. Et dans la qualité artistique de Barbara, cette cassure lui a permis de clore la féerie enfantine et d'y puiser toute sa vie. C'est-à-dire que la pureté est restée son cheval.
J'ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent, il le sait. J'ai tellement besoin de ma mère, mais comment faire pour lui parler? Et que lui dire? Que je trouve le comportement de mon père bizarre? Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire. Parce qu'on les soupçonne d'affabuler. Parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils croient qu'ils sont les seuls au monde avec leurs terribles secrets. De ces humiliations infligées à l'enfance, de ces hautes turbulences, de ces descentes au fond du fond, j'ai toujours ressurgi. Sûr, il m'a fallu un sacré goût de vivre, une sacrée envie d'être heureuse, une sacrée volonté d'atteindre le plaisir dans les bras d'un homme pour me sentir un jour purifiée de tout, longtemps après.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Il a plu sur Nantes, donne-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré, ce vagabond se disparut. Voilà qu'il m'était revenu.
Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson, Jean-François Kervéon? Est-ce que c'est une chanson de la réconciliation de Barbara avec son père?
Oui, de la réconciliation et même d'une double rédemption. Elle est, quand elle explique ce drame, elle est coupable avec lui. Hein. Elle est victime et coupable.
Enfin, elle est surtout victime.
Oui, mais dans la manière... elle est partie avec lui. Elle a été raptée, bien sûr. Je veux dire, un enfant n'a pas de latitude par rapport à ce geste. Mais c'est la partie la plus troublante, hein, quand même, de sa vie. C'est qu'on se dit, mais mon Dieu, comment on peut faire avec ça? Surtout que c'est une parenthèse qui a duré 4 ou 5 ans. Et pour vous dire à quel point elle est vouée à ce qu'elle vit, et en même temps, elle le domine, elle le maîtrise, cette affaire va revenir. Le père a déserté le domicile conjugal. Le téléphone sonne, c'est l'hôpital de Nantes. On ne sait pas où il est depuis des années. Ils disent le père est à l'agonie, donc elle y va. En fait, le père est mort. C'était pour que les gens s'occupent d'un décès. Il faisait venir la famille. Donc elle arrive, il est à la morgue. Bon. Et quand elle va être lancée au boulevard des Capucines comme jeune débutante, elle va griffonner jusqu'au dernier moment dans sa loge un texte qui s'appelle Nantes. Sa mère et sa famille sont dans la salle. C'est son premier soir de jeune artiste à Paris. Premier soir où elle va être remarquée par Denise Glaser, par les maisons de disques. Elle arrive en scène, elle est près d'un piano, elle manque de défaillir, c'est très compliqué pour elle, mais elle chante Nantes. Et elle pétrifie 1000 personnes. Et c'est les débuts de sa carrière.
Oui, parce que c'est la première chanson, c'est pas tout à fait la première chanson qu'elle a écrite, mais c'est vraiment avec cette chanson qu'elle devient Barbara.
C'est avec cette chanson que Denise Glaser dit... il faut qu'elle fasse un disque, cette fille.
Sous les roses, mon père. Il pleut sur Nantes et je me souviens. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin.
Alors ce père lui a fait beaucoup de mal, mais vous dites, Jean-François Kervéon, dans votre biographie, que la figure la plus énigmatique de sa biographie, c'est Esther, c'est la mère de Barbara.
Ben oui, mais en même temps, c'est aussi le mystère de l'ordinaire, hein, c'est-à-dire que où était la mère, quoi, pendant qu'il se passait ça. Il est possible, il y a des stratégies, hein, que ça se fasse uniquement quand elle n'est pas là. D'ailleurs, la dénonciation de Barbara vient au moment, elle a 16 ans, ils sont en vacances, la grand-mère meurt, et la mère doit rentrer à Paris pour l'enterrement, et on décide que Barbara va rester seule face à son père, et c'est à ce moment-là qu'elle va courir à la gendarmerie. Donc la mère, en fait, c'est l'énigme du silence et d'une renonciation, d'une culpabilité sans nom, quoi. Voilà.
Elle l'appelle la juive. C'est quand même assez étrange, non ?
Oui, ça, vous avez raison. C'est un des points les plus complexes et vraiment, c'est la non-identification totale de Barbara à la question juive.
Elle a beaucoup parlé de la Shoah. Elle était quand même très...
Pas tellement, pas vraiment, par rapport à ce qu'elle aurait pu. Il n'y a pas l'ombre d'une... Il y a des chansons dans Soleil Noir où elle récapitule les grandes catastrophes. Elle va se rappeler de mineurs de fond quand elle était jeune, qui ont sombré dans des éboulis, dans une mine en Belgique. Elle va se rappeler des prostituées, des crèves-la-faim, des prisonnières. Elle va chanter les chansons les plus lugubres du catalogue, même de la variété de l'époque, au début de sa carrière. Elle n'a jamais fait allusion à ça.
Alors pourquoi selon vous? Parce que la politique, enfin c'est pas de la
parce
politique.
Parce que je pense que d'abord elle l'a dit hein, dans le témoignage que vous avez donné, ce drame universel n'a pas été le sien puisqu'ils sont ils ont fui
elle ne parle
en avant
que de ce qu'elle connaît.
Et par contre, ce drame universel a été oblitéré par son drame personnel. C'est-à-dire que c'est aussi en 41 à Tarbes que l'inceste avec le père a commencé. Mmh. Et elle a jamais porté d'étoile jaune. Ouais.
Alors parlons un peu de sa carrière qui débute, on l'a dit un petit peu à ce moment-là. Il faut préciser d'abord qu'elle a pris des cours de piano parce qu'au départ, elle pensait, petite, être pianiste. Et puis ça n'a pas été possible alors.
Non, pianiste.
Quelle raison?
Elle a eu une sombre douleur à la main qui a été mal opérée et donc terminée pour la carrière pianistique.
Mais elle prend quand même des cours de piano.
Elle prend des cours de chant. Après la guerre, ses opérations à la main ont fait qu'elle n'a pas une... D'ailleurs, ça se voyait, elle avait toujours le petit doigt en l'air au piano. Le petit doigt de la main gauche, je crois. Et donc, pour la carrière de concertiste, non, parce qu'elle voyait le haut de gamme. Vous voyez, elle voulait faire une très grande carrière de romanesque, etc. Et donc là, elle prend des cours de chant. Et d'ailleurs, elle n'a pas l'âge. Et la prof la rembarre en disant « Non, vous viendrez pas, vous êtes trop jeune, ça va pas ». Et puis finalement, depuis un petit canard, cette professeure de chant à qui elle avoue une admiration, une tendresse toute sa vie, en a fait un signe blanc, quoi.
Alors à un moment, elle part en Belgique, elle est même pas encore majeure. Qu'est-ce qu'elle va faire en Belgique? Pourquoi est-ce qu'elle quitte sa famille?
Mais là, moi j'ai été très étonné parce que il est arrivé en Belgique une autre apnée, quoi. C'est-à-dire que on peut pas descendre, je dirais pas plus bas, mais on peut pas aller vers plus de rien qu'elle n'a été. C'est-à-dire, elle était mineure, elle avait 20 ans, ça va pas à Paris, elle joue dans des cafés pour bouffer un sandwich. Faut voir ce que c'était que la misère sociale après la guerre. Elle part en Belgique parce qu'il y a un cousin, Pirutski, qui fait un cabaret russe. C'est toujours ce rêve de la Russie blanche et musicale qui traverse la famille. Elle arrive en Belgique et le mec lui dit, je vais t'aider, mais tu vas faire mon ménage. Et au bout de 15 jours, le cousin voulait la prostituer. Mmh. C'était très très fréquent quand même hein, dans l'après-guerre. Elle prend son manteau, elle s'en va avec sa valise.
En fait, c'est le moment de sa vie où on ne sait pas très bien justement, mais elle a été plusieurs fois sur le point obligée d'en passer par là.
Bah le cousin. Ensuite, elle dormait à l'hôtel, elle pouvait plus payer sa chambre. Il y a un type dans un hôtelier qui lui dit je vais vous laisser une chambre et puis vous pourrez peut-être rembourser en faisant des passes. Ensuite, elle-même, elle va se mettre sur le boulevard où il y a des prostituées parce qu'elle a faim. C'est une prostitution de la faim. Les prostituées la chassent, elle trouve des clients, au lieu de coucher avec elle, il lui file un billet. Et elle a vraiment été très très près. Peut-être même qu'elle a basculé et qu'elle a choisi de pas le dire dans ses mémoires. Ça, personne n'en sait rien. Et quand elle rentre de Belgique, elle se fait prendre par un type qui a une magnifique voiture, qui s'avère un proxénète, qui lui offre une énorme botte de muguet et qui lui propose la botte aussi. Et elle va en faire une chanson qui s'appelle « Monsieur Victor ». Donc là encore... De cet enfer qui pourrait être une jeune fille acculée à la prostitution, toc, 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 hop là, au fond, elle en fait une chanson.
Mmh. Il y a aussi l'épisode un petit peu de la communauté à Charleroi, où elle va vivre un peu en compagnie d'amis qui sont aussi des artistes à la mansarde.
Magnifique, c'est une... Ça. Et puis tout à coup, la fleur s'ouvre, hein, elle est au bout de cette route avec son pauvre pull vert, elle marche pieds nus, elle cherche un pianiste, on a l'impression que tout va s'effondrer. Elle rencontre trois personnes, elle rencontre une communauté, c'est toute la jeunesse de Bruxelles. Là encore, elle va vivre dans un cabaret à prostituer, elle va chanter en donnant du whisky avec une copine qui est sa pianiste. Mais là, la fleur va s'ouvrir, elle va se marier avec Claude Suisse.
Alors,
et ça, c'est une période merveilleuse.
C'est qui cet homme?
C'est un fils de la bonne bourgeoisie belge de Bruxelles. Ses parents n'étaient pas du tout enchantés de le voir partir avec une pirate. Mais il va lui apprendre tout ce qui lui manque. C'est-à-dire, c'est un bourgeois, esthète, littéraire, proche des surréalistes belges, qui sont un milieu mais absolument formidable que j'ai découvert dans la biographie. Ces gens qui avaient une culture, une originalité, une violence dans la fantaisie, qui distribuaient des tracts chez les bourgeois. Plus fantaisiste que méchant, et elle va suivre en apprenant, en jouant dans les premiers cabarets d'étudiants avec des carabins qui vont lui jeter des trognons de pommes et des cendriers. Mais c'est pas bien, c'est bien quand même, ça va. C'est au cabaret du Cheval Blanc, elle fait ses classes, elle fait des petites scènes avec sa pianiste, et c'est merveilleux.
Ensuite, c'est le retour à Paris. Mm-hmm. Et là, c'est les 10 années de l'écluse. Il faut dire ce que c'est que.
Bah, pareil. C'est que on était avec les Carabins, les surréalistes, les jeunes belges. Et à l'écluse, on va se retrouver avec le fondement de la gauche française, hein, qui va être embringué dans la guerre d'Algérie. Elle était au métro Charonne quand ça a tapé, quand on a jeté des Arabes à la Seine. Elle fait toute l'éducation de la gauche française. Elle va croiser tout ce qui va devenir la grande chanson française.
Est-ce qu'elle croise Gréco à ce moment-là?
Gréco est déjà... Alors, elle est allée voir... Le frère de Prévert avait ouvert un cabaret qui était très réputé. Et Gréco était déjà une diva. C'était déjà une diva dans l'après-guerre, Gréco.
Un peu sur le même mode, d'ailleurs. Elle est arrivée un peu avant...
Oui.
Un peu avant Barbara, mais sur un type. D'ailleurs, on les a souvent un petit peu associés.
Mais Gréco était vraiment déjà un astre. Hein. C'était franchement une icône. Et puis... Gréco était très chic et Barbara était carrément, elle venait du ruisseau. Et au cabaret des frères Prévert, elle faisait la vaisselle pendant que Gréco passait sur scène et qu'elle embrassait Charlie Chaplin ou les artistes les plus importants du monde qui défilaient dans le cabaret. Elle était en train de laver la vaisselle.
Quelle est votre attitude vis-à-vis des hommes en général?
Je les aime. Beaucoup. Je les admire. Ils m'ont fait aussi, les hommes, Ils ont beaucoup d'importance dans ma vie. Je dis, ils ont beaucoup d'importance. Peut-être que vous allez me demander, que c'est de dire, c'est un peu général. Les hommes de ma vie sont des hommes que je ne renierai jamais, nullement. Ils m'ont fait et...
Vous trouvez que c'est normal?
Que quoi?
Que les hommes fassent la femme?
Non, en général, enfin... Ce sont les femmes qui accouchent les hommes. Enfin, je pense qu'en peinture, c'est comme ça. Et peut-être aussi en littérature. Mais là, c'est... Oui, je crois... Je ne sais pas si c'est normal ou non, mais les hommes m'ont fait. Et... Voilà. Les hommes, qu'en pensez-vous? Je les aime. Je les aime beaucoup. J'ai besoin d'eux.
Il marche le regard fier, mais oh, 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 moi devant et eux derrière, mes hommes. Et si j'allonge le pas, ils me suivent pas à pas. Je ne leur échappe pas, mes hommes. Où que je sois, ils sont là, mes hommes. Je n'ai qu'à tendre les bras, en somme. Je les regarde venir, fier de leur appartenir. C'est beau de les voir sourire, mes hommes.
Entretien avec Roger Louis du 16 décembre 1966. Les hommes, j'ai besoin d'eux. Les hommes dans ma vie. C'est pas très féministe finalement le discours de Barbara. Et en même temps, c'est une femme absolument libre. Hein.
Oui, elle disposait entièrement d'elle-même. Alors le rapport aux hommes est quand même assez... paradoxal. Hein. En gros, la chanson illustre bien une vérité. Elle en avait besoin, elle les aimait, mais c'était quand même elle, la patronne. Hein. Viens là, je te prends, je t'aime, je rêve de toi, j'étais dans la peau. Et puis en même temps, elle était insupportable, infernale, et il la quittait. Parfois même, il la désirait pas du tout. C'était quand même une femme très phallique qui effrayait pas mal de monde. Hein. Mais pour pas devenir une sorte de Dalida tragique entourée d'homosexuels, elle s'est pas gourée. Elle y est allée quand même, vers des hétéros, purs et durs, qu'elle allait chercher. Elle leur
sautait dessus.
Ah oui, et même elle cassait les couples de ses copines et tout, elle était infernale. À un moment, ce qui se passait dans la chambre à coucher, compte tenu de ce qu'a été sa vie sexuelle et de ses antécédents, très franchement, j'ai jamais osé le demander à des gens qui ont été concernés. Je sais qu'elle a eu une relation avec Pierre Arditi, par exemple, qui était fou d'elle, et qu'elle a fini par le foutre dehors. Elle a eu des relations avec des tas de types, en fait. On le sait aujourd'hui, parce que ça finit par... C'est pas dans les biographies, mais Plamondon, Luc Plamondon, même tardivement...
Guy Bedos?
Et Guy Bedos, non. Parce que Guy Bedos, il a dit, ah non, sûrement pas. Écoute, hein, t'es gentil, tu me fais rire, je t'adore, hein. Tu es mon ami, mais je...
Et Reggiani, alors?
Il a dit, je me réveillerai pas avec la mort, il a dit.
Reggiani,
bah, elle l'a aimé, puis un jour il en a eu marre, il est retourné voir sa femme et il l'a plaqué.
Est-ce que c'est vrai qu'il a écrit cette chanson, Madame Nostalgie, contre elle?
Avec Moustaki, les deux larrons. Mm. Mais oui, mais parce que faut comprendre, quand vous êtes un garçon, un homme, je suppose que la diva avec ses tubes, ses mouchoirs, ses rimes, ses fleurs, ses problèmes de télé, vous pouviez peut-être en avoir marre de Barbara au quotidien, vous voyez? Et je pense qu'elle en...
C'est quand même cruel, cette chanson.
Terrible. Parce que c'est pas seulement la mélancolie, c'est que c'est non seulement une complaisance à
qu'est-ce
la
qu'elle
mort.
Dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, la chanson.
Je sais pas, j'avais répété tu nous saoules, quoi. Tu nous fatigues avec tes crises macabres. Elle a vraiment une araignée au plafond qu'elle veut vous, dont elle veut vous contaminer. Les garçons, ils avaient envie de rigoler, d'aller boire une bière, d'être... Et elle était pas contre rigoler, mais elle était quand même toujours le centre.
Hein. Vous dites les garçons parce qu'ils étaient souvent bien plus jeunes qu'elle, ses amants.
Non, les deux étaient plus jeunes. Reggiani et Moustakis étaient plus jeunes qu'elle. Et puis, elle les faisait vivre. Elle a donné à Moustakis ses premières... Moustakis écrivait des chansons, elle lui en a pris. Elle a pris Reggiani en tournée avec elle. C'était quand même toujours la patronne. Mmh. Et le seul type qui pouvait maîtriser un tel phénomène et dont elle a été amoureuse sans... La vie avait passé, c'est Depardieu. Depardieu était vraiment à la mesure de cette femme-là. Il pouvait trouver un rapport d'équilibre.
Et Brel aussi, ça aurait pu arriver finalement entre eux, parce qu'il y a quelque chose de commun, presque jusque dans leur physique d'ailleurs.
Vous voulez dire qu'ils étaient très laids tous les deux?
Alors moi je dirais pas ça, mais ils avaient peut-être un physique cabossé. Ils se considéraient eux-mêmes comme pas suffisamment beaux.
Non mais là aussi elle s'est pas trompée, c'est-à-dire qu'elle l'a vu, on sait pas comment, à Bruxelles, il jouait, elle aussi, pas dans les mêmes... Lui était déjà un peu plus lancé. Et il a fait une carrière plus vite et beaucoup plus grosse qu'elle. Il a été toujours pionnier, lui, de 4 ou 5 ans. Et pour lui, c'était un peu la sœurette. Et ensuite, elle est devenue une diva.
Mais elle l'a croisé dans la rue, elle s'est dit...
Je pense qu'elle l'a vu, il était, lui, dans un cabaret au centre de Bruxelles, quand elle jouait, comme vous disiez, à la mansarde ou au Cheval Blanc. Mais le Cheval Blanc, c'était un truc à 4 sous, alors que le cabaret où jouait Brel, c'est un cabaret professionnel. Et lui, il l'a recommandé, il l'a poussé. Et ils ont eu une amitié dont ils étaient... très satisfait, qui était une amitié intellectuelle et créative. Ils rentraient de nuit ensemble, ils traversaient la Seine pour aller manger une soupe au gratin au hall, et ils se parlaient toute la nuit. Mmh. Et quand il a dit « moi j'arrête parce que je répète toujours la même chose sur scène, etc. », 4-5 ans après, c'est ce qui va lui arriver à elle aussi. Ils se sont répondus à travers le temps en tant que grands artistes, en tant que fauves. Ils étaient vraiment sur la même longueur d'onde. C'est une amitié magnifique. Hein.
Alors il y a un homme quand même dont il faut parler, c'est Hubert Ballet, oui. Qui a réussi à l'entraîner jusqu'au Sénégal. Ça aussi, c'est une histoire
mais oui,
c'est incroyable.
Quand on ouvre une page de Barbara, on pourrait en faire un long métrage. Un soir à l'Écluse, il rentre un type, France-Afrique, gaulliste, un compagnon de la Libération, qui a des décorations au col et qui en même temps a un bagout d'enfer et qui s'occupe des intérêts de la France gaulliste en Afrique noire. Donc, vous voyez le genre, hein, ça devait être, il abritait des brigands, les tueurs du sac, les tueurs de Ben Barka sont réfugiés un moment dans son cabaret. Il trouve que cette fille est sympa, il lui offre un martini, ils allument une cigarette. C'est un mec hyper viril, hein, bourru, fasciné par la chanson. Moi, j'ai entendu des interviews de lui. Elle est devenue raide dingue de cet homme. Et il a dit, je vais pas changer mes habitudes pour toi. Si tu veux vivre avec moi, faut que tu viennes en Afrique. Et elle a eu un épisode africain, mais qui est à se tordre de rire.
Elle a essayé de chanter.
Elle a chanté dans le cabaret, donc, que possédait un des amis de Hubert Bellet, qui était consul de France, ou presque. Enfin, il représentait les affaires de France en Côte d'Ivoire. Elle avait un chauffeur, elle avait toute une domesticité nègre, et elle engueulait les coloniaux français ou les gangsters français de maltraiter leurs servantes noires. Elle était avec son ombrelle et sa crème antisolaire, et elle s'occupait de la destinée des noirs en colonie française. Et en même temps, elle hurlait quand elle voyait un insecte dans la baignoire.
Ouais. Bon, ça s'est pas très bien passé, finalement, c'est la séparation.
Excusez-moi, mais entre, comme toujours, chez Barbara plus que partout ailleurs, ça a fini par « Dis quand reviendras-tu ?» qui est un des plus grands credos des chansons de Barbara, puisque quand elle a dit « Non mais moi je te quitte », et bien il me dit « Si tu veux pas rester, si tu veux vivre à Paris, on se quitte ». Ils se sont quittés, il lui a payé un appart à Paris, et ils se sont écrits, et elle n'arrêtait pas de dire « Dis quand reviendras-tu à Paris ?»
C'est un peu la dernière fois qu'elle va dire ça, parce que on a quand même en tête l'idée que Barbara, c'est une femme seule, une femme qui, au moins pendant les 20 ou 25 dernières années de sa vie, va vivre un peu en recluse. Il n'y aura plus d'hommes, enfin il y aura ces hommes de passage.
Moi, je pense qu'au bout d'un moment, quand vous avez une vie qui n'est pas basée sur le couple et la famille... Peut-être que le corps a moins d'exigences, il y a une sorte de résignation. Hein. Elle a vécu à la fin de sa vie avec une femme, et qui d'ailleurs est toujours appréciée, dont elle a hérité. Et on ne sait pas quelle est la nature de leur rapport. Mais elle a été une croqueuse d'hommes, oui. Et une grande amoureuse aussi.
Le succès, puisque c'est ça dont vous voulez me parler, le succès isole. Et à la fois, si vous voulez, ça vous rapproche à Bobino. Pour moi, ça a été un événement en ce sens que tout à coup, j'ai eu un public, et un public, dont on dit populaire. C'est vrai, c'était très important. Et la jeunesse qui est essentielle. Mais à la fois, ce succès-là, c'était un émerveillement pour moi, et aussi quelque chose de très lourd, de très très lourd à porter.
Pourquoi cette hantise du public populaire ? parce que j'avais envie, j'ai été étiquetée pendant des années comme une intellectuelle.
Pas possible.
Ce qui est extrêmement grave, parce que je suis vraiment une primaire. Et comme quelqu'un de rive gauche, parce que c'est vrai que nous débutons tous sur la rive gauche, puisque c'est là que sont, si vous voulez, c'est là que le cœur, enfin, les cabarets sont là, c'est là que la vie de la chanson, si vous voulez, au départ, elle naît là. Et c'était très grave pour moi, parce que ça me limitait. Et j'avais une envie, c'était finalement d'aller vers ce public qui est, je crois, le mien, mais qui avait peut-être peur d'une chose parce que j'étais étiquetée. Intellectuelle, c'est un mot extrêmement grave.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine. Cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Alors le succès, il est venu petit à petit durant ces 10 années à l'Écluse, dont elle est devenue la star incontestée. Puis un jour, Brassens l'a aidé à franchir le pas, l'a invité à faire sa première partie à Bobino. Et là, elle est devenue la star qu'elle ne cessera jamais d'être.
Oui, oui. D'ailleurs, elle a eu plus de succès que lui. C'est-à-dire que la critique a dit « Oh là là, Brassens, il est répétitif et fatigué, mais alors par contre, Barbara, c'est merveilleux. » Et oui, elle a démarré à partir de là... Une aventure qui était déjà très intime et très forte à l'Écluse avec les 50 personnes qui étaient dans cette petite salle des quais. Mais après, les salles sont devenues de plus en plus grandes et la fusion aussi. Mmh. Et je pense qu'elle en a été la première stupéfaite.
Et l'argent est arrivé avec ça. Mmh. Alors vous qui étiez ami avec Françoise Sagan, il y a quelque chose d'un petit peu comparable finalement dans leur manière de ne pas thésauriser, à un moment de gagner beaucoup d'argent et puis de faire des cadeaux. Alors il y a cette histoire des 50 stylos Montblanc que Barbara avait acheté pour les distribuer comme ça.
Absolument, ils étaient en ville, en province, elle sortait, elle achetait 40 ou 50 Montblanc, elle revenait, elle en donnait un à l'équipe. Précy qui est devenu si important pour elle, parce que ça a été son ermitage final. C'est son impresario qui lui achète sans lui dire. Mmh. C'est en faisant ce que tu veux, si tu veux le revendre, revends-le. Mais il faut un toit pour ton, au moins pour tes vieux jours, mais pour tes week-ends, pour te reposer entre deux tournées. Elle a commencé par arracher des orties, par faire venir du monde, et c'est devenu son ermitage dans, voilà, c'est précis sur Marne.
C'est là qu'elle a vécu le plus en solitaire.
La fin, oui. Enfin, là, une très longue et très harmonieuse fin. Hein. Il faut rappeler que l'année de sa mort, elle était victoire d'honneur de la musique. Et elle s'est pas déplacée parce qu'elle trouvait qu'elle n'était pas présentable, mais elle a fait une petite liaison téléphonique avec la scène, très enjouée. Elle était très heureuse de cet honneur.
Il y a eu deux étapes. Enfin, pour moi qui vous connais de loin.
Oui.
Il y a eu un moment où vous chantiez les chansons des autres. Oui. Puis un autre moment, vous êtes mis à chanter les vôtres chansons.
Oui. Oui, je vous vois venir. Alors.
Non, continue.
Eh bien, première chose, il n'y a pas un moment où je chantais les autres. Moi, je chante encore les autres. Et je ne suis pas. Alors, je déteste, alors je le dis exprès, comme ça, un auteur-compositeur. Je déteste ça, je ne sais pas ça du tout. Il se trouve
vrai
que.
Pourtant.
Non, ce n'est pas vrai du tout. Enfin, je veux dire, non. Je dis pas, c'est pas vrai. Je sais pas ça du tout. J'ai chanté. J'aime beaucoup chanter les autres parce que il y a une variété pour exprimer. Je crois que je suis une interprète. Vous comprenez, je suis pas du tout quelqu'un qui écrit. Et quand on me dit poète, poésie, machin, truc, ça m'énerve. Je suis pas du tout un poète. Je suis pas du tout. On est à une époque où on mélange tout. Vous comprenez, c'est pas. Je crois que c'est pas ça. Je fais des petits zinzins comme ça qui me vont, comme une autre ferait une robe qu'elle coupe sur elle. Bon, moi je sais pas coudre, alors je fais ça. Hein.
De vos robes.
Voilà, si vous voulez, et c'est tout.
Si vous aviez une autre tête, est-ce que vous chanteriez les mêmes chansons?
Ah, sûrement pas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est difficile, cette tête-là. J'écris pour cette tête-là. Vous comprenez? On écrit. Si j'étais blonde, j'écrirais certainement autre chose. Vous comprenez? Vous me parlez de ma tête, justement, c'est une tête que je... C'est drôle, parce que c'est une tête que je ne supporte pas du tout, et... Non. Sûrement, je serais différente si j'avais une autre tête. Bien sûr.
Vous n'aimez pas la tête que vous avez?
Non, pas tellement. Enfin, c'est pas important tout ça. Mmh. Puisque je l'ai. Bon, enfin. Ah non.
Vous avez une tête de pirate.
Bon, j'aimerais avoir une tête de femme. Ça serait suis femme pirate. Jolie. Oui. Tant pis.
Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, 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 non. Je ne veux pas prendre l'air. Non, 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 non. Je ne veux pas boire un verre. Non, 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 non. Je ne veux pas l'oublier. Non, 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 non. Je ne veux pas m'en passer. Je jure, t'as le mal, y'a pas de mal à ça. Venez manger que dalle, écoute Barbara. Peut-être qu'il reviendra.
Ouais, t'es pourtant belle quand même, Barbara, non?
Non.
Elle s'est embellie avec le succès, avec l'harmonie. Mais si vous aviez vu, après la guerre, dans les années 53, son premier récital en Belgique, où il y a une photo d'elle en noir et blanc sur le programme, vous auriez été aussi effrayé qu'elle.
Il y a beaucoup de choses dans votre biographie, Jean-François Kervéhan. On va retracer sa carrière au cours des émissions qui vont nous conduire jusqu'à jeudi. Parlons peut-être quand même un petit peu de la dernière décennie, ou des 15 dernières années, avec tout l'engagement autour, par exemple, du sida. Parce que elle disait que c'était une égocentrique, mais en fait, elle était plutôt généreuse quand même, quand on regarde un petit peu dans le détail.
Bah, les professeurs, en plus, c'est vraiment le début du sida, où les personnes, enfin, on avait du mal à toucher ces malades, hein, ne sachant pas trop. Elle a immédiatement réagi, elle surréagit même. Hein. Elle arrivait sur les scènes avec des corbeilles de préservatifs et elle en jetait au premier rang, qui était quand même très étonné de cette manière de lutter contre cette maladie. Elle remontait les couloirs d'hôpitaux avec un chéquier, là où étaient les malades, à savoir s'il y en avait un qui avait envie d'aller à Venise ou d'avoir un appareil photo. Elle avait une ligne ouverte à Précy, où il y avait des malades qui l'appelaient.
D'ailleurs, les gens, en effet, l'appelaient et elle prenait au téléphone.
Ouais.
Et moi, qu'est-ce qu'ils se disaient?
Mais ça, je peux pas savoir. Il est clair qu'ils étaient quand même plus que mourants, hein, parce que il n'y avait pas de tri ou de quadrithérapie qui permettait aux gens de se maintenir. Donc, il partait en quelques mois dans un abîme qui ne lui faisait pas peur. Je pense que c'était sa place. Compte tenu de tout ce qu'elle avait vécu, elle savait, elle, pour avoir été sur cette pierre chancelante, comme ça, entre tout et rien, le néant et une transcendance, le ciel et le pavé, et le ruisseau, elle a longtemps vécu et multiplié les expériences sur ce pavé branlant, donc c'est une place qui la nourrissait. Et même si je trouve admirable que quelqu'un dilapide sa fortune comme elle l'a fait, en charité, elle le faisait aussi, elle, par essence même, par rapport à son identité.
Et puis un jour, elle a dit « j'arrête ». Elle l'a dit plusieurs fois d'ailleurs, elle l'avait dit déjà une première fois en 1970, mais c'était peut-être un malentendu.
Elle a dit « j'arrête le spectacle », la scène, pardon. Les récitals.
Et ensuite, elle a arrêté tout. Elle a arrêté la chanson. Sa voix s'était cassée aussi.
La voix était cassée, mais ça l'a pas empêché de faire le Châtelet. Hein. Mais à la fin, vraiment, la voix a été très cassée. Et c'est vrai que petit à petit, elle considérait qu'elle était plus présentable. Elle avait un studio d'enregistrement dans la Grange à Précy, où elle a travaillé jusqu'au bout des compilations totales de ses chansons. Elle a jamais pu sortir le spectacle, la vidéo du spectacle avec Depardieu, Lady Passion. Elle a des chansons.
Peut-être qu'elle a pas voulu le sortir finalement.
Le spectacle n'était pas fameux. Au niveau musical, il avait pas tort, hein, Romanelli, quand ils sont engueulés dans un couloir et qu'il a rompu avec elle, même si le spectacle avait fait frémir de joie tout Paris. Mais c'était quand même musicalement pas au niveau. Elle s'en est rendu compte.
Mitterrand.
Mitterrand, c'est alors toujours pareil, le paradoxe de Barbara, vous allez trouver des tas de témoignages, vous allez dire non, je ne suis pas engagé, je ne suis rien, de nulle part, ni personne.
Il y avait Göttingen
en 80, dans les, mais pire que ça, dans les d'abord Mitterrand, il ouvrait beaucoup de ses meetings, et notamment à Maastricht, par Göttingen qui est quand même, c'est la chanson de la réconciliation franco-allemande, c'est Juliette Gréco, la première chanteuse à avoir chanté en Allemagne, mais pareil, l'aventure de Barbara, juive, dans le train, allant vers les étudiants de Göttingen, mais c'est une pure merveille. Aucun roman, c'est un rêve de romancier, cette aventure. Elle va tomber amoureuse du jeune directeur de théâtre. Et
parce qu'en fait, elle voulait pas y aller.
Ensemble.
Elle arrive là-bas, elle est très désagréable avec tout le monde.
Mais bien sûr, sauf que le type est charmant, le étudiant est formidable, on dirait un bûcheron, elle le trouve très beau. Elle lui dit bon, je viendrai, elle veut pas venir, finalement, elle insiste tellement qu'elle y va. Et c'est vraiment l'histoire du prince et de la grenouille, parce qu'après, là-bas, névrosée comme elle est, et puis elle a pas tort, elle l'accuse d'être une graine de nazi, quoi, tous ces blonds aux yeux bleus à Göttingen, en plus. Qui est une ville historique et intellectuelle d'Allemagne. Et à la fin, la grenouille va coucher avec le prince. Et elle fait
parce qu'entre temps, ce qui s'est passé, c'est que des étudiants se sont mobilisés pour lui apporter le piano qu'elle voulait, parce qu'elle n'avait pas le piano qu'elle désirait, qui était sur son contrat. Et tout d'un coup, tout bascule. Mais c'est ça, Barbara.
Elle voulait un piano à queue. Elle a dit non, je chanterai pas, il n'y a pas de piano à queue. Ils ont dit bon, on va vous trouver un piano à queue. Ils sont allés le chercher à l'autre bout de la
la ville. Et puis ils ont chanté avec elle. Et elle est restée, elle devait chanter deux fois. Elle a chanté 7 ou 8 fois.
Ouais. Et elle meurt le 24 novembre 1997. On va continuer toute la semaine de détailler la vie et l'œuvre de Barbara. Merci Jean-François Kervéan. Je rappelle votre biographie intitulée Barbara, la vraie vie. Elle est publiée aux éditions Robert Laffont. Tout de suite, c'est la chronique.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique proposée aujourd'hui par vous, Marin Deviry, de la revue Des Deux Mondes. Bonjour Marin.
Bonjour Mathieu.
Au sommaire de la revue Des Deux Mondes d'octobre 2020, deux dossiers qui dialoguent entre eux. Le premier, c'est Penser la crise avec Hannah Arendt.
Absolument. Et alors la crise dont nous parlons, s'agissant de l'analyse que fait Hannah Arendt, c'est la crise de la vie intérieure de l'homme moderne, disons. On a trois gros articles que je voudrais mettre en exergue dans ce dossier. Un de Michela Marzano, la philosophe italienne, qui centre son analyse sur la réflexion d'Hannah Arendt sur, disons, les conditions dans lesquelles une vie intellectuelle peut se mettre à résister au totalitarisme montant ou au totalitarisme qui s'installe. Et l'idée clé de cet article, l'analyse clé, disons, c'est que sans capacité de jugement pour Hannah Arendt, il n'y a pas d'humanité. Et donc, Michela Marzano se centre sur la manière dont Hannah Arendt pense l'irruption de la capacité de jugement à travers l'éducation, à travers le rapport à la mémoire collective, l'inscription dans la communauté, etc. Et de façon à nous montrer qu'au fond, toute la réflexion de Hannah Arendt, c'est de consiste à construire un être réfractaire à la folie totalitaire, résistant, immunisé à cette folie. Et par ailleurs, Michela Marzano nous montre aussi que, au fond, Hannah Arendt, se faisant, s'est exclue, disons, de la famille des philosophes, et qu'elle est devenue, une philosophe pour les journalistes et une journaliste pour les philosophes à cette occasion, parce qu'elle ne rentre pas, disons, dans une philosophie de doctrine. Bon, on a un article de Bérénice Levet également qui parle, elle, de la thématique de la profondeur et de la mémoire chez Hannah Arendt, et puis Sébastien Lapac, pour faire la transition avec le deuxième dossier, nous parle du rapport d'Hannah Arendt à la question juive et notamment à la question de la création d'Israël.
Voilà, deuxième dossier qui ambitionne d'analyser les sentiments négatifs à l'égard d'Israël.
Absolument, avec une question, clé que... se pose Pascal Bruckner, pourquoi les persécutés sont devenus les persécuteurs finalement dans certaines représentations collectives, et il y développe un certain nombre d'hypothèses. S'agissant d'Irène Saya, qui est une philosophe mais qui milite aussi beaucoup, disons, pour une école républicaine, laïque et respectueuse de la laïcité, elle parle énormément, elle fait une grande analyse des manifestations antisionistes à l'école. Quant à Elie Barnavi, philosophe qu'on ne présente plus, il développe, il tourne autour de l'idée de Vladimir Yankelevitch, selon laquelle l'antisionisme est devenu, je cite, la permission d'être démocratiquement antisémite. Il y a également un article de Boualem Sansal sur, la dialectique entre l'antisionisme de l'islam arabe, de l'islam perse et de l'islam turc, et au fond, et qui s'interroge aussi sur l'antisémitisme en Algérie. Voilà. Et tout ceci est complété par, à la fois un apport géopolitique de Renaud Girard sur la situation d'Israël aujourd'hui et le déplacement des enjeux au Moyen-Orient, éloignement de la menace vitale pour Israël et déplacement donc des rivalités. Et puis un apport économique par Annick Stetta qui nous explique que le boycott est une arme souvent utilisée contre Israël et qui ne marchera jamais.
Merci beaucoup Marin Deviry. Tout cela et évidemment d'autres choses encore, comme par exemple les critiques, sont à retrouver dans la revue Des Deux Mondes d'octobre 2020. La Compagnie des Œuvres, c'est une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Baptiste Lénard. Demain, on continue de parler de Barbara, cette fois avec Joël Julie, qui analysera les textes de la chanteuse. À 20h30, les fictions, c'est Michael Jackson, The Man in the Mirror, le premier épisode d'une série de 5, mais tout de suite vous retrouvez les sciences sur France Culture.